Bienvenue sur Allegre FM 93.1, je suis Cad, l'homme du 92. Vous écoutez Championne, l'émission sur le sport féminin. Nous découvrirons ou redécouvrirons une légende de sa discipline. Ce soir, ce sera Team USA. Il s'agit de Simon Biles. Mais Sandrine qui m'accompagne, les potes, t'es d'accord sur l'appellation. On dit comment du coup ?
Simon Biles.
D'accord, ok. Bon, pour moi, ce sera Simon Biles, d'accord, j'accepte. Sandrine nous accompagnera bien sûr. Je suis très heureux que tu sois là. Merci beaucoup d'avoir répondu à l'appel. Et donc, on va parler gymnastique ce soir et en général, et plus particulièrement féminin. Allez, bonne écoute, à tout de suite. Chers auditeurs, auditrices, bonjour, j'espère que vous allez bien. Nous allons parler de gymnastique, figure au sol, ballon, ruban, saut périlleux. Mais d'abord, notre invité. Comment ça va, Sandrine ?
Ça va.
Alors, du coup, tu me rejoins aujourd'hui pour parler gymnastique. Et alors, quel est ton rapport avec la gymnastique ?
On en a parlé juste avant, j'en ai fait quand j'étais enfant, mais genre, je sais pas, pas beaucoup.
Non, parce que moi, mon seul rapport avec la gymnastique, pour ceux qui s'en souviennent, c'est le dessin animé du Club Dorothée. J'aime la gym.
Mais non, mais t'en avais à l'école aussi. En primaire, il y avait. En primaire, t'as...
Dans les années 80, oui.
Oui, il y avait de la gym au programme.
Ah, j'arrive... Non, nous, on faisait la... Non,
mais je crois... si, il y avait du...
T'es sûr ?
Moi, j'en ai eu.
Est-ce qu'on a des sources ?
Moi, j'en ai eu de la gymnastique pendant le programme. Alors, je suis au collège, je crois, ou
peut-être... Ah, collège ?
Ouais.
Un collège, j'ai jamais eu, c'est sûr. Collège lycée, non.
Ah, moi, si, j'avais si, pas. J'en ai eu. Et on faisait des agrès, différents agrès, ouais.
Ah bah, d'ailleurs, première chose pour nos auditeurs et auditrices, qu'est-ce qu'un agrès ?
Un agrès, c'est...
Et non pas un magret, le canard.
Un agrès, c'est les différentes... comment expliquer ça ? C'est les différents éléments que tu as pour faire des figures dessus. Donc, t'as le sol, t'as la poutre, t'as les barres. Ça, ça s'appelle les agrès.
D'accord, en fait, c'est chaque épreuve.
Non, c'est plus... Enfin, je ne sais pas si c'est l'épreuve ou en soi ou si c'est, une façon de déterminer... enfin, peut-être l'épreuve, je ne sais pas. Tu chercheras. Mais pour moi, l'agré, c'est la discipline. Donc,
d'accord, oui, donc c'est ça.
Discipline de la poutre, tu vas à l'agré. Voilà. Enfin, je ne sais pas si on dit ça comme ça, mais voilà.
Si, si, c'est les différentes épreuves. De toute façon, après, j'ai une question là-dessus. J'ai une petite question sur le nombre d'épreuves, qu'est-ce qu'il y a et tout. Une référence sur la gymnastique pour toi ? Comme ça, je suis gymnastique, tu penses à quel athlète ?
Bah, pour le coup, depuis un certain temps, c'est à Simone que je pense.
D'accord.
Parce que je trouve que c'est une athlète vraiment humainement et au niveau de son sport qui est au top. Après, si jamais je repense à avant, en tout cas, ce ne sera pas une américaine, ce sera plus côté des Russes.
Qui sont de l'Est.
Ouais. Qui sont hyper forts. Franchement, il y en avait plein. Mais j'ai toujours plus ou moins regardé les épreuves de gym, parce que je trouve ça très joli à regarder.
Ouais, il y a un truc, d'ailleurs, il y a une différence importante. Il y a la gymnastique artistique et la gymnastique rythmique.
Ah oui, c'est pas la même chose.
Exactement. Dans la gymnastique rythmique, dont Simone Biles est la reine actuelle, on ne porte pas les rubans, il n'y a pas les massues, il n'y a pas les cerceaux. On est sur vraiment des épreuves poutres, triple sauté, etc. D'ailleurs, je posais la question dans quelques instants, parce que vous vous demandez, mais quelles sont toutes ces épreuves individuelles ? Et l'artistique, par contre, là, on est sur le ruban, le ballon, un peu ce que dans
cerceau.
Voilà, un peu ce qui, dans le, comment dire, l'inconscient collectif, quand on pense gymnastique, on pense plutôt à celle-là, plutôt qu'à celle qui est en poutre et en barre parallèle.
Moi, quand je pense gymnastique, je pense je pense pas du tout à l'artistique.
Mais justement, on parle de ces missions parce qu'elle est genrée. Ah ah, ben oui, parce que moi, pour un mec, on pense à ça. On pense pas justement au cheval d'arçon, aux anneaux, aux barres asymétriques.
Oui, ça, c'est pour la partie masculine, oui, oui. Mais je sais pas, moi, quand je pense pas à la partie artistique, parce que c'est un très joli sport, c'est très beau à regarder, mais c'est pas du tout la même chose. Vraiment pas, parce que pour le coup, les épreuves, elles sont au sol. Donc, elles sont très jolies, mais c'est vraiment deux choses différentes. Ça fait un peu comme si tu comparais la natation sportive et la natation synchronisée. C'est très joli, les deux sont très jolies, mais c'est pas du tout la même chose.
Non, c'est complètement pas les mêmes sports. Alors d'ailleurs, première question, vous jouez avec nous ce soir, vous avez l'habitude comme chaque semaine. Alors, combien y a-t-il d'épreuves aux Jeux Olympiques, c'est important, principales ou agrées, comme tu disais tout à l'heure Sandrine, chez les femmes, et combien y en a-t-il chez les hommes ?
Ah, je sais pas, parce que tu parles par équipe ou en individuel ?
Alors, Équipé individuel, c'est à part, je l'ai mis à part, je te parle des épreuves elles-mêmes, parce que le concours individuel, c'est un complet, et équipe, c'est tout le monde fait effectivement les diverses épreuves.
T'as le saut, t'as le sol, t'as la poutre, et t'as les barres.
Bien vu. 4 pour les filles,
ouais.
6 pour les garçons. Les garçons, ils ont l'anneau, en plus, et le cheval d'arçon.
Ouais.
Alors, si vous voyez ce que c'est cette espèce de...
On dirait un bison, comme si c'était, tu sais, les trucs où on monte sur le cheval là quand ils font les États-Unis là. En fait, c'est la même chose sauf sur la tête et ça ne bouge pas.
Voilà, avec deux mains, c'est en fait c'est assez fou. D'ailleurs, le cheval d'arçon, je suis toujours impressionné du physique des mecs qui le font.
Les anneaux aussi. Enfin, ils se tiennent comme Jésus-Christ là avec les deux anneaux comme ça.
C'est ça.
Une force dans les bras de fou.
Et les mecs, ils ont ce qu'on appelle les barres parallèles, que j'avais du mal à imaginer quand on a préparé l'émission.
Ouais.
C'est en fait ces deux barres de longueur qui sont au niveau de la hanche.
Et qui sont parallèles.
Voilà. Et en fait, ce qui est fou pour le physique des gymnastes garçons, pour les filles, je ne sais pas si c'est à ce point-là, mais chez les garçons, ça m'a toujours impressionné du fait que sur les anneaux, sur les barres parallèles, un peu moins, mais le cheval d'arçon, on est sur des mecs qui utilisent le haut du corps.
Ah, c'est principalement...
Mais plus, quoi.
Ah oui, c'est principalement que le haut du corps. Alors que pour la gymnastique féminine, c'est un ensemble de choses parce que y a beaucoup de sauts. Mm. Alors que les hommes, je ne sais pas s'ils ont une épreuve de saut.
Le cheval ? Et vous aussi, ils ont le saut ?
Non, parce que tu as le cheval d'arçon, hein, où en fait, ils tournent autour et ils restent dessus. Mais est-ce qu'ils ont une épreuve de saut ?
Oui, enfin... Alors, il y a une épreuve qui a été rajoutée depuis les Jeux Olympiques de Sydney, c'est le trampoline, donc finalement, oui.
Oui, c'est ce que je te parle de l'épreuve de saut.
D'accord. Ok, chef. Elle a pris le contrôle de l'émission depuis la semaine dernière. Je suis prise en otage, mesdames et messieurs. Je cligne des yeux.
Le trampoline, ça fait... Enfin, c'est pas vraiment un trampoline, mais un petit trampoline. Mais c'est ce que j'appelle la grille du saut.
Voilà. Et du coup, effectivement...
Ils ont ça aussi. C'est la seule fois où, pour le coup, ils font des figures comme les filles, alors que les filles, elles en font la poutre, sur les barres, au sol, elles en font vraiment partout.
Non, c'est de bonnes réflexions. Et combien y a-t-il d'outils pour la gymnastique artistique, qu'on ne va pas évoquer ce soir, on le garde pour un autre podcast et d'autres athlètes. Combien y a-t-il d'outils d'après toi ?
Pour la partie artistique ?
Ouais.
T'as le cerceau.
Bonne réponse.
T'as le ballon.
Bonne réponse.
T'as le ruban.
Yes, 3, bravo. Et vous jouez chez vous, j'espère.
Je crois qu'ils ont des espèces de... Ils ont un autre truc, mais je ne sais plus comment ça s'appelle.
Les massues.
Voilà, j'allais dire des quilles, mais ce n'était pas ça.
Ça aurait pu.
C'est des bâtons, en fait.
Oui,
comme
les
bâtons de relais que tu as à l'athlétisme, ça ressemble un peu à des bâtons, c'est ça ?
Oui, c'est ça. C'est un mix entre une quille et une quille et un bâton. Et c'est effectivement les massues. Ouais, il y en a toujours deux. Elles les lancent en l'air comme ça, font des triples sauts, elles les récupèrent. Et il y en a un cinquième que j'avais oublié, mais c'est vrai qu'aux Jeux Olympiques, tu peux le voir, la corde. Et j'avais complètement oublié ça.
Ah, mais c'est plus récent, non ?
Ouais.
Ouais.
Et j'avais complètement oublié. Moi, je suis vraiment resté sur les quatre de base, qui sont les plus visuels, en fait. Et ça, j'avais complètement zappé qu'il y avait la corde. Donc, bonne réponse, effectivement, ma chère Sandrine. J'espère que vous jouez aussi chez vous, c'est important. Et bien sûr, on va parler gymnastique. C'est parti. Alors, d'où vient la gymnastique ? Un petit peu d'histoire, un petit peu de culture, c'est aussi...
je sais.
Bien faire. Ah ouais ? Vas-y.
Ça vient de Grèce antique.
Oh, bravo ! Excellent, c'est exactement ça. Donc, le dictionnaire définirait la gymnastique comme des exercices qui développent ou démontrent de l'agilité physique et de la coordination. Les racines de la gymnastique remontent à la Grèce antique. Bravo Sandrine. Quand les hommes se rendaient au gymnase pour faire des exercices et discuter d'art, de littérature, de philosophie. Le mot gymnastique est un dérivé du grec gymnos, qui se traduit littéralement par le mot nu. Voilà pourquoi cette discipline était à l'époque réservée aux hommes. En fait, en gros, ils avaient... Bistro sport. je trouve ça rigolo, en fait, pour le coup. La gymnastique artistique est une discipline olympique depuis les premiers Jeux modernes tenus en 1896 à Athènes. À l'époque, seuls les hommes concouraient sur des engins qui avaient été développés plus tôt au XIXe siècle. Une épreuve féminine a été ajoutée à Amsterdam en 1928. Tu vois, je pensais pas que c'était...
C'est pas si loin que ça.
Non, ça fait bientôt, ça fera un siècle. Mm. Voilà, on n'y est pas encore. Au moment où le sport a commencé à évoluer pour devenir ce que nous connaissons aujourd'hui. Donc en fait, la gymnastique que vous connaissez, que vous regardez aux Jeux Olympiques, championnats du monde, elle existe dans cette forme à peu près depuis 1928. Et enfin, la gymnastique rythmique, d'où Simone Biles est la reine en ce moment, a été créée très tard, au XIXe siècle. Elle met l'accent sur la grâce plutôt que la force brute. Cette discipline est devenue une compétition sportive dans l'ancienne Union soviétique, dont tu parlais tout à l'heure. Nadia Comăneci, si tu nous regardes, et elle nous regarde, et elle nous écoute, et elle nous adore et on l'adore, on l'embrasse. La Roumaine, bien sûr, qui a tenu un premier championnat national en 1942. Le sport a fait ses débuts olympiques seulement en 1984 à Los Angeles.
Ouais.
Tu vois, ça, je ne l'avais pas vu venir. Moi, je pensais que c'était quelque chose qu'on avait dans les Jeux depuis toujours. Mais en fait, pas du tout. C'est vachement récent que ça a apparu dans les Jeux Olympiques.
Bah, Jeux Olympiques, c'est
Pour le
ça le
coup.
principe, c'est que souvent, tu as des épreuves qui apparaissent et qui n'y étaient pas, et soit elles restent pas, mais c'est ça en fait. Ils intègrent, enfin, comme ceux qui ont lieu à Paris, ils ont intégré des épreuves qu'il n'y avait
Ouais,
pas.
le BMX, par
Voilà.
exemple.
Ouais,
Et
ça, à chaque fois, ça évolue,
le
quoi.
breakdance, dédicace à l'Australienne qui nous regarde aussi, des bisous, le crocodile. Bisous elle. Moi, oui, non, t'as totalement raison là-dessus. Et enfin, pour terminer ce petit tour de comment ça marche la gym, sachez qu'il y a deux jurys qui jugent la gymnastique rythmique et artistique. Le premier évalue la difficulté et l'autre l'exécution. Et bien ça, je le savais pas.
Si, c'est un peu le même principe que tu as en termes de notes, c'est un peu le même principe que tu as dans le patinage artistique.
Ah
Tu as aussi
oui,
deux notes sur
le parallèle.
l'exécution, enfin, tu as tous les costumes, la musique, la coiffure, tout ça c'est pris en compte dans la note. C'est pour ça que, pour le coup, pour te l'expliquer vraiment, le plus simple, c'est vraiment de comprendre ça. C'est que c'est pareil en fait, parce que tu as vraiment la partie. Des figures, de la difficulté, de comment est son programme au sol ou ailleurs, vraiment la difficulté qu'ils ont mis en place. Et après, comment elle est habillée, comment elle est gracieuse, comment, enfin, vraiment, ça, c'est deux notes différentes.
Bah, tu vois, je ne savais pas. Et ces deux notes, effectivement, font la fameuse moyenne sur 10 que tu vois, où tu as le juge japonais va mettre 7, le juge américain met 6, le juge français met 9, etc. Bah, je ne savais pas que c'était deux jurys, tu vois. Après, ça paraît logique. Mais du coup, ça sous-entend quelque chose que moi, je n'avais pas du tout anticipé pour cette discipline. C'est-à-dire que les sportives et sportifs de ce sport annoncent ce qu'ils vont faire, tu vois. On est sur quelque chose où ils disent, voilà, sur mon programme, je vais placer tel, tel truc.
Non,
Non?
non,
Ah.
non, en fait, tu as des figures qui sont imposées
Oui, ça, je savais.
selon le degré de niveau aux mondiaux. Tu fais pas la même chose qu'aux Jeux Olympiques. Et en fait, tu as des figures qui sont imposées comme dans le patinage, tu as des figures qui sont imposées. Donc ça donne une moyenne. Et
D'accord.
après, ton entraîneur, il te rajoute des choses. Et ça, en fait, les juges, ils ne savent pas ce qu'ils vont
Ils
rajouter.
découvrent cette partie-là.
Voilà. Donc, en
Ok,
fait,
d'accord.
ils savent pas du tout ce que les autres vont rajouter par la suite qui va faire que la note va grimper. Parce que si tu le réussis, bah, pour le coup, c'est vraiment pris
Ah
en.
oui, d'où les fameuses tentatives où des fois ils se réceptionnent mal parce qu'ils ont proposé quelque chose d'un peu plus haut.
C'est ça, ils ont
Ok.
voulu avoir une difficulté un peu plus grande que. Parce que, grosso modo, y a pas. C'est principalement tout le temps les mêmes figures qui reviennent. C'est juste qu'il y a une petite subtilité à chaque fois, soit un petit demi-tour en plus, soit quelque chose en plus qui fait que du coup ça va faire grimper les points. Donc s'ils le réussissent,
D'accord.
c'est tant mieux. S'ils le réussissent pas, ils ont déjà fait les figures imposées. Donc ils ont à peu près sûr d'avoir un tant soit peu la moyenne si ça, ils l'ont bien réussi.
D'accord, donc en fait, moi ce que j'avais compris qu'ils annonçaient un programme, en fait, c'est les figures imposées qu'ils annoncent parce qu'elles le sont déjà et donc ils savent déjà qu'ils vont faire tel tel truc.
Ouais.
Ça, c'est excellent. C'est
Si tu regardes
excellent.
différentes personnes qui passent par exemple à la grille de la poutre, tu vas voir les mêmes figures de base. Mais
Oui,
après, elles vont en
ils rajoutent des
rajouter,
choses.
la musique, la
Oui,
sortie,
voilà.
tout ça c'est calculé pour que du coup ça soit la note elle soit plus haute.
Alors, la sortie pour ceux qui n'ont jamais vu de gym, c'est à la fin. C'est la figure de fin pour terminer.
Oui, enfin, t'as la sortie sur les barres et t'as la sortie sur
Sur
la
la poutre.
poutre. En fait, c'est juste, elle se prépare à faire la sortie, c'est-à-dire à descendre de la poutre et à descendre des barres. Et donc, la sortie, elle est spécifique. Des fois, il y en a, ils ont leur petite touche, ils ont leur sortie personnelle. Et voilà, ça, c'est une manière, entre guillemets, l'entrée et la sortie sur la poutre, par exemple, ou même sur la barre, c'est une manière de faire monter les points très haut, parce que du coup, ils changent, ils imaginent des entrées ou des sorties
Oui,
qu'ils
tout
n'ont
à
pas
fait.
vues ailleurs, pour justement tabler sur le fait que du coup, ça passe, et du coup, ça fait déjà d'optique, ça fait des points.
Excellent. Alors en France, on a ce qui s'appelle la Fédération française de gym. Ouais, je suis parti sur leur site. Leur site est très cool d'ailleurs, je vous invite. Alors, question simple, ma chère Sandrine Nation, tac tac, vous jouez chez vous comme d'habitude. Combien y a-t-il de clubs de gym en France? À peu près, hein, donnez la louche, hein, t'es pas obligé de tomber pile.
En France, le nombre de clubs de gym.
Ouais, tout à fait.
Je pense pas qu'il y en ait des masses de nombre de clubs, je dirais entre 300 et 400.
Hop, pardon.
Peut-être même moins.
Eh bien, plus, il y en a un peu plus que la natation. Eh ouais,
Ah, c'est
il y en a
deux. Non, mais
1400.
tu me Ah, tu me parlais pas des nombres de licenciés là.
Non,
tu me
les clubs, les clubs.
Ah oui.
1400 clubs, dont 334 en Île-de-France.
Oui, je pense qu'en Île-de-France, il y en a pas mal. Ouais. Oui, parce qu'en termes d'infrastructure, il n'y a pas besoin non plus, tu vois, de...
Bah, quasiment un quart, entre un cinquième et un quart sont en Île-de-France. D'ailleurs, si vous voulez vous inscrire ou faire de la gym, il n'y a pas de souci, il y en a. En termes de licenciés, effectivement, combien de milliers de licenciés?
En France, je pense qu'ils sont entre 100 et 150 000.
Eh bien non, ils sont 326 000 licenciés. Dont 272 000 femmes, c'est un sport particulièrement féminin pour le coup. Mais si vous êtes amateur comme moi et que avec votre souplesse de baleine ou de brique, qui est celle que je partage avec mon corps, vous pouvez sans problème faire partie des 800 000 personnes qui, en plus des professionnels, c'est-à-dire qu'il y a 326 000 licenciés, mais il y a à peu près 500 000 personnes qui font ça de manière amateur, semi-pro, mais qui ne sont pas licenciés dans des compétitions, en fait. Donc ça fait quand même beaucoup de gens, je trouve, qui font de la gym, et c'est cool.
Même si, pour le coup, même s'ils sont pas, ils font pas de compétition, c'est quand même des grands athlètes, parce qu'ils font vraiment des choses vraiment impressionnantes.
Non, non, là-dessus, il n'y a pas de souci. Alors, pour faire de la gym, vous allez me poser la question, eh bien, le prix moyen d'une licence, c'est environ... 150 à 300 euros, mais littéralement, j'ai regardé, en vérité, c'est plus entre 50 et 100 euros que vous pouvez trouver une licence assez rapidement. Après, c'est comme d'habitude, le club où vous allez, c'est l'infrastructure qui va faire grimper le prix. Injuste au corps, pour les filles, c'est entre 50 et 150 euros, selon la qualité de la marque. Voilà. Les chaussures spécialisées, exactement, pour le sol et les barres parallèles, environ 30 à 70 euros. Et après, si jamais vous voulez vous protéger les mains pour les barres asymétriques, là, vous rajoutez 15 à 30 euros. Donc, à peu près, vous en avez pour 300 euros à l'année max. C'est quand même un petit coup pour commencer. Mais en vrai, si vous trouvez un club près de chez vous, vous pouvez inscrire des bambins, il n'y a pas de souci. Après, pour les différences de rémunération dans ce magnifique sport, alors les écarts de primes, ça c'est cool. Championnat du monde, Jeux Olympiques, il n'y en a plus. Bon, après, ça va dépendre de la fédération, mais généralement, on gagne la même chose quand on a une médaille d'or, quand on en a un homme ou une femme en gymnastique. Mais après, au niveau des opportunités de sponsoring, bon, à part Simone Biles, qui est vraiment au-dessus du lot là-dessus, les autres, les filles ont un peu moins. Et après, c'est comme le tennis. Sachez que si vous devez emmener vos bambins à travers la France pour des concours, il y en a beaucoup hein, sur la Fédération française de gym. Il y en a à Pantin, il y en a à Lyon, à Saint-Etienne. Bah, ça va être à vos frais. Mais ça peut être un cadeau magnifique et un petit voyage en famille hyper sympa.
Oui, parce que là, pour le coup, je pense que comme il y a des épreuves en équipe, tu peux peut-être te déplacer avec ton équipe.
Voilà. Quand tu es dans un club qui a un certain level, ils partent. Mais parfois, quand c'est des concours individuels ou autres, des fois, c'est les parents qui doivent amener. Ça dépend des moyens du club, encore une fois. Mmh. Est-ce que c'est pris en charge? Donc, renseignez-vous sur ce sujet. Et là, on va faire une petite pause musicale. Okay. Tu as choisi le morceau et on va écouter ça tout de suite. Tu nous en parles après.
De mon morceau?
Oui.
Ouais. Ok.
C'est parti. Musique.
Vous écoutez Aligre FM 93.1. You cross this line. Do you find it hard to sit with me tonight? I've walked these miles, but I've walked them straight line. You'll never know what it's like to be fine. I'm wasting my young years. It doesn't matter. I'm chasing old ideas. It doesn't matter. Take some time to get it.
Eh oui, rebonjour auditeurs, auditrices, j'espère que vous allez toujours bien, vous êtes toujours sur l'émission Championne sur Aligre FM 93.1, nous sommes en direct, et j'ai avec moi Sandrine, ça va toujours Sandrine ?
Ça va, et toi ?
Très très bien, là je suis en train de rechercher mon fichier que j'avais complètement perdu, et moi je vous cache rien, évidemment avec nous on a Armand la régie, merci Armand, et on va continuer cette émission, et cette fois-ci on va parler de Simone Biles. Alors déjà, première chose, ma chère Sandrine, comment t'as entendu parler de cette athlète ?
Je suivais un peu les épreuves de gymnastique, donc du coup je l'avais vue performer. Mmh. Et plus récemment j'en ai entendu parler déjà par rapport à ce qui s'était passé à Tokyo, où je trouvais que du coup elle mettait en lumière des choses qui étaient un peu taboues, et du coup j'avais beaucoup apprécié sa mise en avant. Et puis pour ceux qui connaissent pas, de toute façon elle a fait un... elle était sur Netflix, en fait. Elle, ouais, a fait un reportage pour expliquer un peu... Ouais, pardon, un documentaire, c'est mieux. pour expliquer un peu les raisons du fait qu'elle n'était pas là à Tokyo. Et pour expliquer, c'était juste avant les JO. Et du coup, je la regardais aux JO, évidemment.
Oui, et d'ailleurs, c'était très sympa de voir que Netflix ait fait ce reportage juste avant les JO. Je trouvais ça, mmh, très cool pour ma part. Autre chose, Simone Biles, bien sûr.
On va l'appeler Simone.
Bon, Simone, d'accord. chose que j'ai vue qui était assez impressionnante, elle fait 1m42.
Oui, oui, elle est toute petite. Ouais, elle est
1m42.
Toute petite.
Elle est toute little. Son surnom, c'est The Goat, mais pas la chèvre en anglais. Rien à voir. C'est The Great All of Time, pardon. Donc, en gros, le plus grand. Mais tu m'as dit qu'elle avait un autre surnom.
Ouais, on la surnomme la puce. Parce que justement, elle est petite et qu'elle saute très haut.
Putain, je savais pas ça, moi.
Ouais.
C'est ouf. Ouais, parce que c'est aussi le surnom de Messi, la Pulga, tu vois, en espagnol.
Ah.
Donc du coup, c'est peut-être pour ça que c'est moins mis en avant son deuxième surnom. Mais
enfin,
oui, c'est pareil logique,
enfin,
en fait.
Moi, je la connais sous le nom de la puce, en fait.
Ah ouais,
The Goat, je la connaissais pas, en fait.
C'est long.
Ouais.
Écoute, très très bien. Moi, je suis très content qu'on la connaisse sous son vrai surnom, d'abord. Ensuite, pour parler de Simone Biles, on ne peut pas passer à côté du fait que les compétitions de gymnastique, il y a bien entendu les Jeux Olympiques tous les 4 ans, les championnats du monde, eh ben, je ne savais pas, c'est quasiment tous les ans pour eux en gym. J'ignorais.
Si, si, ouais. Et ils sont obligés de les passer pour pouvoir se... En fait, il faut que tu remportes tous les championnats pour pouvoir aller aux Jeux Olympiques, sinon tu n'y vas pas dans l'équipe américaine.
Déjà, ça c'est ouf. Ça veut dire que déjà tout de suite, on te demande un gros niveau. Évidemment, il y a des championnats d'Europe... qui est très suivi. On a aussi la Coupe du Monde de gymnastique. Je ne savais même pas que ça existait, tu vois. C'est ouf. Et les Jeux méditerranéens, les Jeux mondiaux universitaires. Bon, là, c'est pour des catégories un peu plus juniors. Et malheureusement pour nous, au JO 2024, on n'a pas eu de médaille sur la partie gymnastique. C'est dommage. Donc, ce qui veut dire que si vous êtes chez vous, que vous voulez faire de la gymnastique, que vous voulez inscrire l'un de vos enfants à un sport, il y a un boulevard en France.
Je pense qu'il y a des espoirs, il doit y avoir des espoirs dans les écoles de formation, hein, qui n'étaient peut-être pas aptes à pouvoir être à ces Jeux Olympiques-là, mais bon, je pense qu'en France, il y a sûrement des hommes comme des femmes qui attendent d'avoir l'âge pour pouvoir arriver aux prochains Jeux Olympiques à Los Angeles.
Oui, complètement. Je suis complètement d'accord avec toi. D'ailleurs, avant que j'oublie, c'était quoi le morceau qu'on vient d'écouter ? Ah, moi, je suis comme ça, moi, je surprends les gens.
Ah, Je sais pas, c'est un morceau qui m'apaise et qui me fait voilà, je sais pas, qui me permet de réfléchir, voilà, donc j'aime bien.
Oui, tu t'es dit que ça allait bien avec Simone parce qu'il y a une réflexion effectivement sur ce dont on va parler après.
Oui, c'est ça, et puis c'est rythmé parce que ça descend, ça monte dans le niveau de la chanson, donc voilà.
London Grammar pour le titre du morceau, pour ceux qui cherchent.
Non, ça, bon. ça c'est pas le titre, ça c'est le nom du groupe.
Ah bon ? J'ai confondu les deux ? Mais qui s'appelle la grammaire de Londres ?
Bah, le groupe, écoute.
Non, mais, comme si moi je m'appelais la grammaire du Havre, ça n'a aucun sens.
Eh bah écoute, si ça vous aide, tant mieux.
Je proteste. Bon, d'accord. Alors, Simone Biles, elle est née le 14 mars 1997, et pas GGL, parce que c'était son anniversaire il y a quelques temps, le mois de mars, bien sûr. Dans l'Ohio, Simone Biles a grandi à Spring, au Texas. Elle est américaine d'origine du Belize, et elle a une histoire déjà très...
Elle n'est pas américaine, elle est belizienne.
Elle a les deux, elle a la double. Bah, la double, sinon on ne peut pas concurrir sur le maillot USA.
Bah, t'as vu le petit bijou que c'est ? Bien sûr qu'ils se disent, ils vont dire bienvenue.
Ah, les États-Unis, ils aiment bien les gens qui font du sport. Écoute, hein, on va pas se mentir, oui. Ça fait partie de leur économie. Donc, dès le plus jeune âge, elle est placée en famille d'accueil à la base. Et en fait, finalement, c'est lorsque son grand-père maternel va apprendre qu'elle est en famille d'accueil, qu'il va décider de la recueillir et qu'il va donc la ramener à Spring, au Texas, pour l'élever.
Avec sa petite sœur.
Exactement, c'est vrai qu'elle est placée avec sa sœur, effectivement. Ça va être un peu difficile pour eux. Elle découvre la gym, ouais, parce que voilà, entre sa mère biologique qui veut les récupérer, mais un peu pas, mais en fait, du coup, il y a ses grands-parents là. C'est un peu compliqué sur ce côté-là. Mais ce qui nous intéresse, c'est qu'à partir de 6 ans, en fait, elle va découvrir la gym lors d'une sortie scolaire. Anecdote réelle, en fait, ils devaient aller dans une ferme à la campagne. À cause de la météo, c'est annulé. Et en fait, ils font une séance de gymnastique au Bannon Gymnastics à Houston. Donc en fait, vous voyez plein d'enfants. « Ah, on va à la campagne, on peut pas, bah, on fait de la gym. » Et là, en fait, elle va carrément taper dans l'œil de tout le monde. Parce qu'avec sa sœur, elle découvre les agrès, notamment du trampoline. Et Simone est immédiatement repérée par l'encadrante de la salle, qui est du club, en fait, qui est prêtée pour cet événement. Et en fait, elle fait tout de suite un formulaire à destination des grands-parents, parce qu'en fait, elle se dit « Waouh, elle a 6 ans, elle saute partout, il y a du potentiel. » Et en fait, l'anecdote est folle, c'est-à-dire que si elle part à la campagne, elle n'a pas sa carrière, quoi.
Elle aurait peut-être découvert la gym un peu plus tard, mais du coup, ça aurait été plus compliqué en termes de pour intégrer les Jeux Olympiques, puisqu'elle aurait été peut-être un petit peu trop vieille.
Bah, c'est ça, parce qu'en fait, déjà à 6 ans, c'est déjà tard pour les programmes. C'est-à-dire qu'en fait, elle va commencer tardivement, alors qu'elle a 6 ans. Alors, aux États-Unis, c'était ouf, je ne sais pas quel âge ils les mettent, mais 6 ans, c'était déjà un peu tard. Et en fait, de là, elle va commencer dès 8 ans à rejoindre en fait, un centre d'entraînement avec une célèbre coach qui s'appelle Amy Bourman, qui l'accompagne pendant toute la première partie de sa carrière. Et après, à partir de 13 ans, elle commence à remporter des concours. Et le pire, c'est qu'en mai 2012, à 15 ans, elle est déjà au top. Et en fait, elle ne peut pas intégrer les Jeux Olympiques de Londres de 2012 pour la simple bonne raison qu'il faut avoir 16 ans l'année des Jeux, ce qu'elle n'a pas. Donc du coup, elle va rater les Jeux, l'équipe américaine va gagner, mais ça va lui donner l'envie de tout écraser. Et c'est assez fou parce que dès qu'on arrive à Rio en 2016, ça y est, c'est le feu. Je te laisse dire combien de médailles. J'ai le palmarès, moi. Rio 2016.
Alors du coup, elle a remporté 5 médailles aux Jeux Olympiques, 4 en or, 1 en bronze à Rio en 2016 et 1 en argent à Tokyo en finale de concours général par équipe. Et en 2019, elle est entrée dans la légende en remportant un 5e titre mondial au concours général individuel des championnats de Stuttgart.
Stuttgart, exactement, tout à fait.
Au total, elle a décroché 25 médailles aux mondiaux, dont 19 en or. C'est du jamais vu, quoi.
Non, c'est fou. Et ça, entre 2013, donc on rappelle qu'elle est née en 97, donc 16 ans. Okay. Donc de ses 16 ans jusqu'à là, en 2023, elle prend ses 25 médailles, c'est une folie.
Mais elle remporte son premier titre mondial en 2013, ouais.
Ouais, tout à fait. Ouais. Médaille d'or au concours général individuel, médaille d'or au sol. Voilà, le ton est donné, médaille d'argent au saut de cheval, bronze à la poutre. Et effectivement, ce qui est cool, c'est qu'on a pu la voir au JO de Paris, où elle a fait un petit palmarès sympa.
Oui, mais de toute façon, elle est arrivée au JO de Paris remontée à bloc parce que du coup, on en parlera peut-être après ou quoi que ce soit, mais bon, elle a eu une coupure pour un souci. Et quand elle est revenue, pour elle, aller au JO, donc déjà, il a fallu qu'elle, bah, comme on a dit avant, qu'elle fasse toutes les compétitions, il faut les gagner pour que du coup, elle puisse aller aux Jeux Olympiques. C'était pas une certitude quand elle a décidé d'y aller, c'était pas sûr qu'elle y aille. En fait, il fallait qu'elle remporte tout. Sauf que comme elle est au-dessus du lot, en tout cas en termes de discipline, elle les a toutes remportées et elle a pu aller aux JO de Paris. Et on était très contente de l'avoir, surtout parce qu'elle était, en fait, elle avait pas refait de gymnastique depuis Tokyo. Donc,
tout à fait. Et on va parler de Tokyo, mais juste avant Tokyo, je voulais quand même à poser cette question. Sais-tu ou savez-vous combien de figures elle a inventées et qui portent son nom ?
Il y en a 4.
Et ça, c'est dingue. C'est-à-dire que la meuf, elle a carrément inventé des figures. Et d'ailleurs, je les ai. Ha ! Parce
moi
que j'ai
aussi,
fait mes recherches.
Je les ai.
Ah, vas-y, parce que...
Enfin, je sais pas si j'ai le nom des figures, mais
moi,
je sais qu'en 2019, elle est devenue la première femme à réussir un double salto arrière groupé avec une triple vrille lors de sa performance au sol. Donc, c'était la seule à pouvoir le faire.
Oh, voilà. Ça s'appelle un Yurchenko.
Ah, c'est bizarre parce que ça fait très russe quand même.
Bah oui. Bah,
donc en fait, elle a fait une figure qui appartenait à quelqu'un d'autre.
En fait, elle commence au Mondial 2013, comme on a dit, du haut de ses 16 ans. Et elle fait sa première figure au sol qui s'appelle The Biles. Et c'est un double salto, deux tours complets, tendu, suivi d'une demi-torsion avant la réception. Toujours au sol, elle fait The Biles 2, inaugurée cette fois en 2019, lors des championnats US. Cette figure, c'est un double salto avec triple vrille.
C'est ce que je viens de te dire ?
Eh bien, c'est la Biles 2.
Ben, c'est ce que je viens de dire. Je viens de dire un double salto arrière groupé avec une triple vrille.
Ouais, ça, moi, je suis perdu. Complètement
t'écoutes
ouf.
Pas, en fait.
Bah, si, j'écoute.
Bah,
attends, c'est mon travail d'écouter. Évidemment, au niveau du saut, elle invente The Biles et The Biles 2 again. Donc, au saut, c'est alors, une rondade flip suivie d'une demi-torsion juste avant la pose des mains sur la table de saut, puis une double vrille. Oui, ça vous paraît complètement dingue ce qu'elle fait. Oui, c'est une acrobate. Oui, c'est une gymnaste.
Ah, c'est une acrobate. Mais elle a une autre...
Ah, mais voilà, c'est le The Biles 2. Mais oui, je me suis fait avoir parce que The Biles 2, c'est un Yurchenko. Double carpé, rondade sur le tremplin, suivi d'un flip arrière, avec pose des mains sur la table de saut, puis de deux saltos arrière en position carpé, c'est-à-dire avec le corps fléchi aux hanches et les jambes tendues. Voilà le Yurchenko. Et ça, c'est The Biles 2 au niveau du saut. T'as raison,
elle
a un truc à la poutre.
À la poutre. En fait, dans les mêmes championnats en 2019, elle a accompli une autre prouesse. C'est une sortie en double salto arrière groupé avec une double vrille. Et celle-là aussi, elle porte son nom.
Alors que moi, je suis spécialiste, préparez-vous, je suis spécialiste de la double ouverture de frigo, d'accord ? Vers 20h, double ouverture de frigo, lancement du coude gauche, triple vrille sur moi-même, double rotation pour récupérer ma canette de coca, et ensuite je fais un double moonwalk arrière pour atterrir sur le canapé. Et ça s'appelle une CAD, ok ? Moi, j'ai inventé une figure. Et ça, c'est le feu. Non mais quand même, quelqu'un qui invente des figures, j'ai jamais vu ça de ma vie, quoi. C'est dingo. C'est vraiment dingo. Et donc, on va aller sur Tokyo, parce que c'est sur Tokyo qu'en fait, elle va se faire connaître. Donc, je te laisse enchaîner sur Tokyo.
Non, elle était déjà connue, pour le coup, pour ceux qui regardent la gymnastique et ceux qui étaient aux États-Unis, elle était déjà, connue
avant
Tokyo.
Voilà, moi, je te parle du reste du
monde. Alors, malheureusement, elle a été connue à Tokyo, pas pour plus... Enfin, moins pour son côté de gymnaste que pour ce qui s'y est passé. Faut savoir que en fait, les Jeux Olympiques qui se sont passés à Tokyo, pour le coup, c'était en pleine pandémie, donc du coup, les familles n'ont pas pu la suivre. Parce que il faut quand même savoir que du coup, ses parents, qui sont à la base ses grands-parents, mais bon, elle les appelle, enfin, c'est ses parents pour elle. Ils se déplacent systématiquement à toutes ces compétitions. Donc on évidemment aux Jeux Olympiques ils y sont à chaque fois. Là pour le coup bah, les athlètes ils n'étaient pas accompagnés de leur famille, donc déjà je pense que psychologiquement ça les joue parce que elle a une grosse pression du fait il faut tout faire pour le pays, elle est mise en avant, donc il y a tout ça, et le fait d'avoir ses parents, ça lui fait une bulle en fait, et là elle l'avait pas.
Bah, ça change ta routine, et c'est très difficile pour un sportif de changer sa routine.
C'est ça, et du coup en fait elle a commencé à faire les entraînements, elle a même commencé à faire certaines figures, et en fait elle s'est rendue compte qu'elle avait la maladie de la perte de figure. En fait, pour les gymnastes et peut-être pour d'autres disciplines où il y a des sauts, c'est-à-dire qu'en fait, elle n'arrivait pas à comprendre ou à savoir dans quelle position elle était pour pouvoir se réceptionner, ce qui fait que c'est hyper dangereux parce qu'elle peut se faire une blessure assez, assez grave, même minime, mais en tout cas une blessure. Et du coup, c'est quelque chose que d'autres gymnastes avaient eu et qu'elle, pour le moment, elle n'avait jamais vraiment ressenti. Et elle a continué à faire malgré tout quelques petites choses. Et en fait, elle a préféré mettre mettre fin à la compétition et se retirer complètement des Jeux Olympiques.
Oui, et d'ailleurs, c'est assez fou parce que l'équipe des États-Unis a dit que c'était un problème physique, etc. Alors qu'elle l'a bien dit direct. D'ailleurs, sa phrase va faire polémique. C'est « Ma santé est plus importante qu'une médaille ». Ce qui va faire tout un pataquès aux États-Unis, mais elle a bien raison de mettre ça en avant. Et effectivement, ça va s'appeler la crise des twisties, littéralement. Et en fait, elle va mettre en avant quelque chose qui est assez puissant,
c'est la santé mentale.
La santé mentale, dont on va parler dans la troisième partie. Et bien entendu, ça va lui permettre d'ouvrir une porte sur quelque chose. Tu peux nous dire ça rapidement, et après, de toute façon, dans la troisième partie, on va plus creuser sur ça aussi.
En fait, elle se sentait mal, elle ne comprenait pas, il y avait quelque chose qui n'allait pas, mais au-delà du fait qu'elle avait justement cette paire de figures, mais il y avait autre chose, elle ne comprenait pas trop quoi. Et en creusant et en allant voir, bien sûr, en étant aidée avec une psychologue et tout ça, pour se faire aider pour sa partie de santé mentale due à son trouble, elle s'est rendue compte que du coup, elle avait été agressée sexuellement par le médecin de l'équipe américaine de gymnastique. Mmh. Et du coup, elle a vraiment battu cette chose-là, elle l'a vraiment mis en avant, elle a sorti le scandale et tout ça. Il s'est avéré que du coup, ce fameux monsieur Larry Nazar, qui était le médecin de l'équipe, il a agressé sexuellement 260 gymnastes, en fait. Donc, c'était pas la seule. Et elle avait complètement oublié cette partie-là, elle l'avait occultée. Hein. Et quand c'est revenu, automatiquement, ça l'a bouleversée, donc elle a tout fait en tout cas pour que ça soit entendu et qu'elle se serve de cette notoriété qu'elle avait pour mettre ça en avant et pour qu'il soit jugé. Et pour le coup, il a été condamné à 175 années de prison pour les agressions sexuelles, et en fait ils ont rajouté à ça 60 ans de prison pour de la pédopornographie. Donc il a pris cher, le
monsieur. Ouais, mais tant mieux.
Ouais, tant mieux.
Tant mieux.
Bah, 260 athlètes quand même, enfin, gymnaste, ouais, c'est énorme. C'est pas rien, quoi.
De toute façon, dans la troisième partie, on va creuser ça. Avant, on va se détendre un petit peu, mettre un peu de musique. Et après, dans la troisième partie, on va recreuser ce sujet-là. Ça te va ?
Ça me va.
Très bien. Eh bien, Armand, c'est à toi.
Vous écoutez Allegre FM 93.1.
Bonjour, bonsoir à nouveau, auditrices, auditeurs. Nous sommes toujours sur 93.1. Je suis toujours Cad, l'homme du 92. Vous êtes bien dans l'émission championne. Là, nous allons continuer de parler de cheval d'arçon, d'anneau, de poutre. Très bizarre ce que je viens de dire. Et prenez donc votre meilleure souplesse, mesdames et messieurs. Pour m'accompagner, j'ai toujours Sandrine avec moi. Est-ce que ça va, Sandrine ?
Toujours.
Évidemment, nous avons toujours Armand à la régie. Merci d'être là, toujours en place. Et maintenant, on va parler de plusieurs choses de façon libre, notamment sur le traitement de la santé mentale. Mais on va revenir effectivement sur ce qu'on disait dans la deuxième partie il y a quelques instants. Tokyo 2021. Effectivement, après avoir fait une pause d'un an, parce qu'elle a fait une année sabbatique après les Jeux de Rio.
Elle s'est mariée d'ailleurs pendant cette pause.
Très bien, tu connais ton sujet, j'aime beaucoup.
Je connais cette athlète, oui.
Voilà, autant parler d'athlète qu'on apprécie. Et du coup, ce qui va se passer, c'est qu'effectivement, elle va quitter les Jeux de Tokyo en phase finale en disant « ma santé est plus importante ».
Qu'une
médaille. Là, elle va effectivement placer au monde que non, contrairement à ce que dit la Fédération américaine, c'est pas juste une question de santé, je me suis cassé quelque chose ou autre. Elle a vraiment mis en avant qu'elle a eu effectivement, comme tu as dit, ce syndrome de... comment tu l'appelles déjà ?
La perte de figure.
Perte de figure. D'ailleurs, on découvrira qu'elle a une perte de l'attention qui existait depuis enfant aussi, c'est peut-être lié à ça.
Ah non, mais toutes les gymnastes, elles ont subi cette perte de figure, en fait. C'est un syndrome qui est vraiment lié aux gymnastes, ou en tout cas à ceux qui font des figures.
Et du coup, effectivement, elle va, à partir de ce syndrome, comme quoi la santé mentale, c'est très important, il faut prendre ça très au sérieux, puisque ça peut déboucher sur des choses plus importantes. Donc elle va aller effectivement découvrir qu'elle a été abusée étant petite, sur un truc complètement ouf. Donc, comme tu disais, l'entraîneur Larry Nassar, exactement, ancien médecin de l'équipe nationale de gymnastique, il aura fait du mal à beaucoup de gens, puisqu'il aura abusé 260 gymnastes. Alors évidemment, il va être condamné. Rappelle-nous la sentence.
175 années de prison, plus 60 ans de prison pour pédopornographie.
Alors chez moi, on dit « chef ». Voilà, ça c'est dit. Et donc, effectivement... ça va ouvrir les portes sur un sujet qui est très important. D'ailleurs, c'est pas le seul entraîneur qui gère des petites filles. Ça existe aussi dans le foot.
Ah, dans plein de sports, il y a eu le MeToo sport, le MeToo tennis, le MeToo gymnastique, mais en France aussi, hein, il y a eu des scandales.
Donc du coup, ça a ouvert vraiment la porte, donc c'est une tribune. Il faut savoir que le 15 septembre 2021, Simone Biles témoigne devant le Congrès des États-Unis lors d'une commission d'enquête sur les manquements du FBI dans la conduite de cette enquête. Donc c'est quand même pleinement un truc de fou, donc elle va prendre beaucoup beaucoup d'importance médiatique. En pleurs, elle déclare: on nous a laissé tomber, on nous doit des explications, je rends responsable Larry Nassar et je rends responsable le système entier qui a permis de perpétrer ces abus. La Fédération américaine de gymnastique et le Comité olympique américain, je suis ici parce que je ne veux pas que les autres vivent l'horreur que moi et des centaines d'autres avons enduré. Et là, clairement, ça a la place au-dessus du sport, en fait.
Mais je pense que déjà, en quittant Tokyo, avec, faut dire, la pression qu'un pays lui mettait, parce que, bah, évidemment, sachant qu'elle c'était une grande athlète, on comptait sur elle pour qu'elle ramène des médailles, se dire non, en fait, ma santé mentale, parce qu'elle le dit, parce que c'est un peu tabou, donc de dire que t'as un problème de santé mentale, même que peu importe lequel c'est, le fait de dire non, ma santé mentale est plus importante, elle s'est mise à dos je ne sais combien de personnes, évidemment. Et en fait, de découvrir par le biais d'une psychothérapie que du coup, effectivement, elle a ce problème de perte de figure, mais qu'en plus, elle avait refoulé un traumatisme lié à cet individu. Du coup, oui, je pense qu'elle avait vraiment besoin de faire ce travail-là pour dénoncer ce genre d'abus. Et en plus, elle, pour son travail personnel, ça l'a beaucoup aidée.
Complètement. Et d'ailleurs, tu me disais hors antenne, mais du coup, elle est extrêmement engagée de faire les JO au Paris.
Les Jeux Olympiques de Paris.
Voilà, on ne dit pas des pâtes, on dit pas des bolognaises aux pâtes, on dit des pâtes à la bolognaise, bien sûr. Et effectivement, elle est ambassadrice engagée des JO de Paris 2024. D'ailleurs, elle dit quelque chose.
Oui, elle a dit « Je me devais de revenir aux Jeux Olympiques car j'avais le sentiment que s'il n'y avait pas une survivante en activité dans la discipline, on oublierait cette affaire. Comme je suis encore là et que j'ai une présence importante sur les réseaux sociaux, on ne peut pas l'oublier. »
Non, mais ça, c'est fort. Ça me rappelle un peu Megan Rapinoe dans le foot aussi, qui a des positions très tranchées anti-Trump, parce que clairement elle est LGBT, oui, et on sent qu'il y a vraiment une envie de se révolter et d'utiliser effectivement la puissance médiatique qu'elles peuvent générer.
Mais elles ont raison, parce que du coup elles se servent de ça pour mettre en avant des causes justes en fait, et pour aider, parce que pour le coup elle l'a pas fait, enfin là c'est vraiment quelque chose pour le coup qui est très humaniste. En fait, elle a pensé à ses 270 gymnastes. Elle n'a pas pensé qu'elle. En fait, elle ne s'est pas mis elle en avant. Et au congrès, tu l'as dit, elle a parlé des autres, en fait, pour que ça n'arrive plus. Donc, c'est vraiment quelque chose pour que ça change et un peu comme pas mal d'affaires, mais que la honte change de camp.
Oui, et puis moi, je pense qu'on ne peut trouver ça que légitime, en fait, que comme tu disais tout à l'heure, quand tu as un système qui est mis en place pour te faire gagner des médailles pour représenter ton pays, donc tu es poussé par un système, tu es poussé par des entraîneurs, des médias, le peuple, hein, littéralement, eh ben, utiliser cette puissance pour parler de causes extrêmement importantes, donc là, les abus sexuels dans le sport, il y en a plein, la santé mentale, c'est très important et c'est très pris au sérieux depuis peu, en fait, 10-15 ans grand max, je suis large avec 15, je dirais plutôt 10 ans en vérité, où c'est vraiment pris au sérieux et vraiment de retourner le système, c'est-à-dire on m'utilise pour quelque chose et moi je vais utiliser le système pour une cause sociale juste, je trouve ça génial, mon perso.
Ah, mais c'est très bien pensé. Et je te dis, je pense que du coup, elle a pris cette option pour se requinquer, se soigner et revenir au top, ne serait-ce que psychologiquement et physiquement, en fait. Et elle a totalement raison de faire ce qu'elle a fait et elle en a besoin pour avancer. C'est normal, en fait. Et qu'elle puisse lever le tabou sur à la fois les agressions sexuelles dans le sport, quel qu'il soit, et en plus le tabou sur la santé mentale, c'est très bien.
Bah, en plus, ce qui est cool, c'est que, moi je trouve ça toujours génial, en fait, elle fait partie des porteurs de la flamme olympique, pas forcément sur la fin du parcours, mais elle l'a portée.
Ouais.
Et ça, c'est cool, c'est aussi un bel accomplissement de je suis sportive de mon état, et en plus je représente quelque chose qui est au-delà du sport. Alors, depuis Tokyo 2020, elle milite pour une meilleure prise en compte de la santé mentale des athlètes, ça c'est clair. Elle est aussi activement dans les associations venant en aide aux victimes d'abus dans le sport. Elle fait aussi quelque chose qui est cool, comme Megan Rapinoe. Elle prend régulièrement la parole pour dénoncer les inégalités de traitement de rémunération entre hommes et femmes dans le sport.
Bien sûr, ouais.
Et un truc qui est fou dans le sponsoring, et ça c'est complètement dingue, c'est qu'elle va prendre un autre sponsor qui s'appelle Athleta.
La place de...
Alors justement, Athleta qui promeut la diversité corporelle et l'empowerment des femmes, c'est-à-dire en gros, être comme vous êtes physiquement, on s'en fiche, vous avez envie de faire du sport, voilà.
Oui, surtout, faut pas oublier juste, je te coupe juste deux secondes, faut pas oublier qu'en plus c'est une femme et qu'en plus elle est racisée.
Oui.
Donc voilà, ça va lui permettre de jouer sur plusieurs tableaux et pour mettre encore plus de personnes... Enfin, pour supporter encore plus de personnes, c'est très bien.
Et du coup, le fait qu'elle s'engage avec cette marque Athleta, qui n'est pas forcément une marque très connue, mais qui a des valeurs, elle a refusé. Dis-le.
Elle a arrêté avec Nike.
Ouais.
Enfin, juste Nike.
C'est... Elle a fermé la porte à une des plus grosses marques du monde d'équipementier.
Hein. Salut.
Voilà. Elle a dit salut les gars, vous n'êtes pas assez dedans. Hein. Moi, ça me voilà. Et donc, effectivement, ça aussi, c'est une manière très forte de démontrer que c'est un sujet qui est vraiment grave, quoi. Effectivement, sur la santé mentale, on en parle beaucoup, donc je vais expliquer ce que c'est. Mais qu'est-ce qu'un coach mental, bien sûr ? Parce qu'effectivement, on va parler un peu chiffres juste avant, mais selon la Croix-Rouge, préparez-vous, mesdames et messieurs, un Français sur cinq est touché chaque année par un trouble psychique. C'est-à-dire environ 13 millions de personnes.
Oui.
C'est assez ouf. Hein. Donc en fait, c'est un sujet qui est vraiment d'actualité. La dépression, qui est très connue, on en parle très souvent, est l'un des troubles les plus répandus, affectant environ 15 à 20% de la population au cours de leur vie. Source ministre des Solidarités. Ouais, je suis parti chercher des vrais chiffres.
Oui, non, mais il y a plein de troubles. Il y en a plein.
En 2022, 61% des travailleurs français déclaraient ressentir du stress au travail au moins une fois par semaine. Pareil, statistique pour TF1. Une enquête de l'IFOP a révélé que 95% des Français âgés de 18 ans et plus déclarent avoir au moins une grande source de stress ou d'anxiété. Sondage IFOP, c'est souvent d'ailleurs le climat qui revient très souvent.
Mais il y a énormément de choses qui peuvent te stresser, surtout quand tu vis à Paris. Enfin, tu multiplies les choses qui peuvent te faire grimper ton stress. D'où le fait que les burn-out, ils aient explosé depuis plusieurs années parce que c'est enfin considéré et pris en compte.
Comme maladie professionnelle.
Ouais.
Ce qui n'était pas du tout le cas il y a encore 15-20 ans, en fait.
Non, bien sûr que non.
Et enfin, dernier chiffre, comme ça on a tous les chiffres du monde. Selon une étude, 72% des Français ont déjà ressenti plus de deux symptômes dus au stress, tels que les problèmes de sommeil, l'anxiété, la fatigue fréquente, encore une fois, sondage IFOP. Donc c'est un sujet qui est vraiment dans l'air du temps.
Mmh.
C'est un sujet qu'on prend enfin au sérieux. puisque le problème, c'est souvent de cette suspicion que lorsque quelqu'un dit qu'il a un burn-out, c'est pas forcément vrai, que quand quelqu'un dit qu'il a du stress ou qu'il se sent mal, c'est pas forcément vrai. Alors quand il y a des athlètes comme Simone Biles qui mettent ça en avant et qui en parlent, malgré qu'effectivement la vie d'une athlète pro mondiale n'est pas la même qu'un travailleur ou une travailleuse lambda, mais néanmoins, c'est réel, et en fait les gens aujourd'hui... c'est des études sociologiques, il y a des chiffres, c'est concret, ça existe.
Oui, voilà. Ah, mais tu
la santé dis, mentale, c'est important.
Tu dis pour les athlètes, c'est pas la même chose que pour quelqu'un du vélo. Je suis d'accord avec toi, sauf que je pense qu'en termes de stress, pendant avant, déjà qu'à la base, en tant qu'être humain, quand tu vas quelque part, peu importe ton caractère, mais la plupart du temps, et ça tu peux pas le tricher, ou t'es stressé. Enfin, quand tu dois aller à un examen, quand tu dois aller. Examen, quel qu'il soit, t'es stressé, c'est normal, parce que du coup, tu vas vers un truc qui est inconnu. Donc, les athlètes, avant une épreuve, psychologiquement, il faut déjà qu'ils soient carrés, qu'ils soient bien protégés, qu'ils soient dans leur bulle. Qu'ils... Et en plus, là, pour le coup, pour parler de Simone, t'as tout un pays qui est derrière toi.
Oui, c'est ça.
Tu sais que tu dois ramener des médailles, parce que si t'en ramènes pas, du coup, on va te dire « Mais qu'est-ce qui se passe ?» Alors que, bah, c'est... Fin... C'est du sport. Donc
et tu vas être jugé au centimètre près sur ta prestation.
Oui, alors que bon, c'est du sport. C'est, si elle n'y arrive pas, il n'y a pas besoin de lui dire « Ouh, c'est pas bien ». Elle le sait déjà, en fait. Enfin, tu
oui,
vois
mais en fait, c'est là où en fait, le débat du sport est extrêmement intéressant. Moi, je trouve que c'est un truc qui est hyper cool à étudier ou à prendre en note. C'est t'es l'athlète, tu t'es raté, tu sais que tu t'es raté. Comme tu as dit, des fois, tu te prépares 2 ans, 3 ans pour une épreuve. Peu importe qu'elle soit de natation, d'athlétisme,
de tennis. Les sacrifices que tu fais pendant toutes ces
exactement.
Années.
La diététique, l'entraînement, la sueur, les larmes, le fait de revenir de blessure, qui est très très fort aussi, tu vois. Donc, tu prends tout ça comme stress. Donc, tu sais que quand tu t'es foiré, tu le sais, tu vois. Mais, t'as les médias. Et les médias, ils vont sans cesse te mettre ça dans la boucle et te remontrer
les
images.
Et les réseaux sociaux maintenant.
Voilà. Et en plus, tu as une espèce de tribunal populaire qui fait que quand tu te rates, si tu t'es pas raté sur un truc, entre guillemets, c'est-à-dire que les images, hein, c'est limite ça, si les images sont pas en ta faveur, on va dire que t'es nul, on va dire que c'est de ta faute, etc. Et en fait, on va venir te chercher comme une Laure Manaudou, une Marie-Jo Pérec, on va te chercher sur ton truc perso. Alors qu'en fait, non.
Mais
c'est du sport. Et en tant qu'athlète, tu sais que tu t'es foiré.
Mais c'est ça. Et d'ailleurs, il y avait des propos de Simone où à un moment donné, on la comparait à d'autres athlètes en disant « Oui, mais là, t'aurais pu faire mieux. » Comparé à telle ou telle ou telle personne, elle a dit « Mais moi, je suis Simone et je suis Simone Biles. Et je suis Simone Biles. Je ressemble à personne et personne ne me ressemble. On est toutes différentes et on a toutes nos atouts ou bien... nos défauts qu'il faut corriger. Donc, en fait, le truc d'être comparé à un autre athlète, c'est hyper... ça peut apporter énormément de stress de positionner...
Ah mais complètement, quand tu prends... Regarde, par exemple, moi, je regarde beaucoup le foot. Et tout garçon qui regarde le foot, hein, tant soit peu le foot masculin, à chaque fois que tu as un milieu de terrain créatif... Bon, là, c'est un peu moins parce que le foot a un peu changé. Mais à chaque fois que tu as un milieu de terrain créatif, c'est le nouveau Zidane. Tu vois, c'est le nouveau Maradona, je donne des grands noms, hein. Nouveau Thierry Henry, là on a parlé d'Mbappé. Mbappé par exemple, qui est un grand footballeur, qui est un super attaquant, dans ses débuts c'est le nouveau Thierry Henry, point. En fait, t'as une facilité des médias pour le grand public, enfin du moins c'est ce qu'ils pensent, pour pouvoir situer un joueur et à peu près situer son talent et te comparer à une légende existante. Sauf que pour l'athlète lui-même, comme pour vous d'ailleurs, si vous avez des frères et sœurs, si vous avez eu des voisins, des meilleurs amis, quand vos parents vous disaient « oui mais machin il fait mieux que toi » ou « machin il fait truc », vous ne l'avez jamais bien pris. Alors un athlète, c'est pas bon en fait. Et je pense que ça c'est un comportement qu'il faudrait déconstruire en fait.
Oui bien sûr, surtout quand c'est un athlète qui se présente aux Jeux Olympiques et qui a tout son pays derrière lui, enfin, ou derrière elle, enfin, ça doit être... vraiment compliqué à gérer. Donc ce type de personnes qui peuvent les encadrer pour leur permettre de pouvoir être à fond dans leur discipline. Et je sais plus, on avait vu, je crois, pendant les Olympiques, il y avait une athlète, c'était une Française, et du coup je crois que c'était au vélo un peu tout terrain et tout,
ouais,
ça,
VTT,
et ouais, VTT, et du coup elle avait complètement changé sa façon,
oui, tout à fait,
pour se préparer et tout ça. Elle avait appris un coach mental, elle avait dit non, moi elle avait changé d'entraîneur, elle a absolument tout changé, elle s'est coupée des réseaux sociaux, elle s'est coupée de ses amis, elle s'est mise dans sa bulle totale pour se préparer pendant, je dis ça, au moins 2 ou 3 ans. Et en fait, elle est là et elle gagne, mais d'une longueur.
Oh ouais, de ouf.
Avant les autres, c'est et en fait, elle le dit à la fin. Je regrette pas d'avoir fait ce sacrifice parce que en fait, j'ai la victoire et c'est et en fait, elle avait déjà essayé, elle n'avait jamais remporté cette victoire-là et en plus avec un boulevard quoi.
Oh ouais. Alors on parle de la championne olympique française VTT médaille d'or cette année et pour un coach mental, en fait, c'est tout simplement un coach qui va vous aider. À accompagner psychologiquement, donc il vous aide à gérer la pression avant, pendant et après les compétitions, comme tu disais, c'est un très bon exemple. Développer la confiance en soi, la résilience mentale. Il y a des techniques de gestion de stress, ça peut partir de la méditation à des visualisations mentales, ce qui est très important, pour améliorer la concentration. Il y a des stratégies de performance aussi, fixer des objectifs précis, court, moyen, long terme. Donc vraiment, il y a une prise en charge. Et en gros, ça va être votre grand frère ou grande sœur, mais en mode... hyper pro et hyper pédagogique parce que c'est leur métier en fait. Et ça, c'est ils ont des formations, il faut avoir un diplôme en psychologie du sport, préparation mentale ou coaching sportif. Donc c'est pas n'importe quoi, il y a des certifications pour faire ce métier de coach mental. Donc comme quoi, c'est pas au premier venu et c'est pas n'importe quoi. Donc, et d'ailleurs l'exemple le plus significatif, on en parlera une autre fois, mais Novak Djokovic, le grand tennisman, il en a un en fait. Et d'ailleurs, c'est pour ça qu'il était numéro un mondial pendant longtemps, surtout comme tu as dit, avec la pression qu'il a autour de son personnage très controversé et polémique, on va dire. Ouais. Donc, c'est vraiment extrêmement intéressant.
Il y a énormément d'athlètes qui en ont un, dont Léon Marchand.
Tout à fait.
Enfin,
très bon exemple.
Ils ont maintenant, je pense que dans les délégations, là, ils ont dû en avoir beaucoup, en fait, parce que c'est très répandu.
Eh bien, ça nous fera encore un sujet à creuser pour la prochaine fois, ma chère Sandrine. Donc, on va dire au revoir. Tu vas me donner le mot de la fin. Mais bien sûr, les comptes Instagram à suivre. N'hésitez pas à suivre le compte FF Gymnastique, de la Fédération Française de Gymnastique. Il y a aussi Bonjour Anxiété, qui est un compte français sur la santé mentale. Je vous invite à regarder ça sur Instagram. Je te laisse le mot de la fin.
Ouais. Pour parodier un ami à nous, fin.
Oui, j'avoue, bien joué. En tout cas, merci beaucoup Sandrine d'être venue.
Je t'en prie.
Merci à Simone Biles, merci le public, merci auditrice, merci la régie qui va évidemment...
Merci Armand.
Ouais, Armand la régie, il est présent. Très joli polo d'ailleurs, au passage. Eh bien, auditeur, auditrice, à la semaine prochaine, que la force soit avec vous, faites
c'est
du sport.
C'est trop vite.
Et comme toujours, c'est comme ça quand on s'amuse. Bisous, bisous. Flying high, I don't know how they feel. People outside in search of something real, and I need mine to get me started. Something to get me started. Got to get me started.
Écoutez Aligre FM 93.1.